Chapitre 28. L'horrible mystère de la bougie au petit casque d'argent. Fanny était sortie de la villa du bord de l'eau dans un état d'esprit des plus dangereux pour cette pauvre madame Saint-Firmin. Une autre ne se serait point relevée facilement du coup porté par Marthe. Même madame de la Bossière, qui était, selon la formule du petit Darbois, une femme de tête, retrouva bientôt toute sa lucidité accoutumée pour faire face au danger qui était imminent et terrible. Chemin faisant, elle raisonnait sur le cas de Marthe, ce qui lui était arrivé déjà bien souvent, et concluait, ce qu'elle n'avait pas encore osé faire, en somme, la puissance visionnaire de madame Saint-Firmin s'était affirmée de jour en jour, grandissante par étapes, et précisément de plus en plus son objet au fur et à mesure que cet objet la tourmentait davantage. Tout cela, pensait maintenant Fanny, était du somnambulisme pur et normal et scientifique. Il ne fallait plus se le dissimuler. Oui, la science avait consacré d'une façon définitive ce pouvoir singulier de l'esprit en état d'extase chez certains individus. Marthe voyait le crime. Elle l'avait d'abord entreaperçu, ne distinguant bien que la figure qui lui était si chère de l'assassiné, puis elle avait aperçu l'automobile, puis une malle, un cadavre dans une malle. Enfin, elle venait de voir le crime lui-même, le crime en action et la figure du criminel au carrefour de la Fresnaye. Ah, ce n'était pas de l'imagination, cela, servi par des coïncidences, non, non, c'était bien de la vision. Et cette vision allait sans doute lui faire découvrir demain l'endroit où était caché le cadavre. C'était classique. Le petit Darbois en avait cité des exemples. La justice alors se mettrait en branle, la justice qui ne répugne plus maintenant, comme avait dit le reporter, à chercher un précieux auxiliaire dans le somnambulisme. Et madame de la Bossière conclut, et elle conclut que Marthe ne devait plus avoir de vision. Cela fut dit par elle tout haut, telle la sentence d'un jugement dans la solitude du chemin, que suivait Fanny rentrant à la roseraie. Elle n'en aura plus. Aujourd'hui, les visions lui commandent de se taire, mais demain, elles lui ordonneront de parler. Elle n'en aura plus. Et Fanny ne plaignit point la pauvre Marthe. Elle lui en voulait trop d'être venue troubler leur si belle, leur si magnifique quiétude. Si Marthe ne s'était mêlée de rien, Fanny ignorait encore à cette heure ce qui s'était passé au rond-point de la Fresnaye. Elle en bénéficierait et personne n'en parlerait, et son mari ne serait pas le pauvre être bourrelé de remords qu'elle ne reconnaissait plus et qu'elle commençait de mépriser, car à quoi bon avoir la force qui tue, qui arme le bras, si l'on n'a point ensuite celle qui commande la pensée et qui efface le souvenir ? Les fantômes d'André n'avaient jamais été dans la pensée de Fanny que les formes diverses du remords. Et ces fantômes étaient tous venus de la villa du bord de l'eau. C'était Marthe qui les lâchait tous les soirs dans la campagne. Marthe disparut, les fantômes disparaîtraient. Ah, comme Fanny haïssait cette femme qui avait pu espérer un instant devenir châtelaine de la roseraie et qui semblait avoir juré de perdre celle qui lui avait pris sa place. 7 heures sonnaient quand Fanny rentra au loge-château. Elle calcula que les heures qui la séparaient de 3 heures du matin seraient bien lentes à passer dans la seule compagnie de l'idée de ce crime qu'elle avait au bout des doigts depuis qu'elle avait regardé de si près la gorge de Marthe, cette gorge si redoutable et si fragile. Oui, elle n'aurait qu'à serrer un peu. Elle sentait la gorge déjà entre ses doigts qui se crispaient avec une joie sauvage sur cette gorge qui ne savait pas se taire. Le valet de pied lui annonça que monsieur de la Marinière était au salon. Il était venu en auto prendre des nouvelles de monsieur de la Bossière. Tant mieux, se dit-elle, je vais le retenir à dîner, et il m'aidera à passer une partie de la soirée. Vous avez prévenu monsieur? Catherine a frappé à la porte de monsieur, et monsieur a répondu qu'il fallait lui ficher la paix, et d'une voix si rude que Catherine, prise de peur, est redescendue en pleurant. Il faut que je dise à madame, Catherine ne peut plus rester au service de madame, et comme je dois me marier avec Catherine... Oh, c'est bien, nous parlerons de tout cela demain, mon garçon. Et Fanny gravit hâtivement l'escalier du premier étage, contenant à grand-peine sa colère, non point contre les domestiques, qui étaient bien excusables de ne plus vouloir rester dans cette maison de fous, d'autant plus que quelques-uns d'entre eux avaient été pris de la maladie ambiante et croyaient voir des fantômes partout, mais contre Jacques, qui avait dû se laisser aller à une nouvelle crise. Elle le trouva dans la penderie, tenant son fusil, comme s'il était à l'affût, et fixant avec des yeux d'épouvante une bougie coiffée de son petit casque d'argent. Elle lui arracha le fusil des mains, elle était furieuse. Il se laissa faire. « Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? » demanda-t-elle d'une voix rude. « Oh, je vous jure que si vous continuez à faire le fou, je ne vous le soigne plus, moi. Je commence à en avoir assez. »« Ah oui, je commence à en avoir assez. Où êtes-vous allé chercher ce fusil-là ? Et il est chargé. » Il ne répondait pas. Alors, avec des gestes précis, vivement, elle vida l'arme de ses cartouches. Il fixait toujours son bougeoir. « Mais me direz-vous enfin ce qui vous est arrivé ? Que vous a fait ce bougeoir ? Pourquoi le regardez-vous ainsi ?» Alors, à voix basse, sans cesser de regarder le bougeoir, il lui confia par petites phrases hachées l'horrible mystère du petit bourgeois au casque d'argent. Cette bougie allumée avait été enfermée par lui dans cette chambre. Il avait conservé les clés de cette chambre dans sa poche. Or, il venait de retrouver, 6 jours plus tard, la bougie non consumée, mais éteinte et coiffée de son petit casque d'argent. Qui donc avait éteint cette bougie? Ayant dit, il leva sur elle un regard si troublé qu'elle eut peur, cette fois, que la raison fût partie pour toujours. Elle se hâta de le rassurer. « Quoi, vous demandez qui? Mais mon pauvre ami, c'est tout simplement Catherine. » « Non, mais c'est impossible. Tu me mens. Tu me mens parce que tu sens que ma raison chavire. Voulez-vous m'entendre, hein? C'est Catherine qui me l'a dit elle-même. Et quoi de plus naturel en vérité? Quand je suis arrivé dans la chambre, moi, il y a ces jours, vous veniez de vous livrer à vos extravagances et l'on dut vous coucher. Je questionnais Catherine qui me dit... « Madame, nous étions en train de faire la chambre pendant que l'on avait glissé monsieur sur un fauteuil dans la penderie. Tout à coup, nous avons entendu du bruit et une porte qui claquait. Je suis allé aussitôt dans la penderie. Monsieur n'était plus là. J'ai voulu ouvrir la porte qui conduit chez les enfants. Elle était fermée à clé. Je suis revenu alors dans la chambre... refermant la porte derrière moi, après avoir éteint naturellement la bougie. Là-dessus, monsieur est rentré dans la chambre comme un fou par le corridor et a couru donner 2 tours de clé à la porte de la penderie. Voilà, mon pauvre ami, tout ce qui est arrivé. Cette explication vous suffit-elle ? Jacques la fixait d'un air hébété. « Oui, C'est certain, c'est logique. Et il soupira. Ah, te revoilà bien malade, le docteur ne sera pas content. Ma chère, ma bien-aimée Fanny, il faut que nous nous en allions. J'ai regardé l'indicateur des chemins de fer. Est-ce que nous passerons par Venise? Où vous voudrez, mais vous me ferez grand plaisir en partant pour Paris, dès demain avec votre valet de chambre. Je ne veux pas que vous restiez ici un jour de plus. Bon, c'est bien mon avis, dit Jacques. Je ne me remettrai tout à fait que loin d'ici. Tout de même, j'étais assez sot avec cette histoire de bougie éteinte. Pauvre garçon, stupide que je suis. Tenez, c'est comme le bruit des chaînes. Vous savez, le fameux bruit de chaînes que j'entendais toujours, que vous avez vous-même entendu un soir. Rappelez-vous, vous disiez, on trouvera demain l'explication, un bruit de chaînes est un bruit très naturel. Oui, vous disiez cela. Eh bien, ma chère Fanny, vous aviez encore raison. C'est le bruit de la chaînette du volet. Alors, il y a de quoi rire, n'est-ce pas? Vraiment de quoi rire. Et j'ai ri tout à l'heure aussi fort que lorsque le docteur rit quand je lui raconte que je suis revenu de chez les morts. Il a fallu cette histoire de bougie éteinte pour me bouleverser l'âme à nouveau. Mais maintenant, la voilà expliquée, cette histoire. Tout s'explique décidément, et j'imagine que je vais bien dormir ce soir. Dans le petit salon, M. de la Marinière attendait patiemment qu'on voulût bien se rappeler sa présence au château, car il était fort curieux des événements qui se déroulaient chez ses amis. Il revenait de Paris à l'instant et il avait lu les feuilles du soir qui relataient les incidents de la conférence de Jaloux à l'école des hautes études. Il apportait les journaux à Madame de la Boissière et venait lui proposer son concours dans le cas où il faudrait leur faire parvenir une réponse. Quelle histoire! Il brûlait de s'y mêler, d'y jouer un rôle d'ami, car c'était un excellent homme. Quand Jacques fut couché, Fanny descendit et mit le comble au vœu du vieux gentilhomme en le retenant à dîner. « Et après, lui dit-elle, nous ferons un bésigue, n'est-ce pas ? Histoire de passer une bonne partie de la soirée avec un autre charmant. On nous abandonne depuis que le bruit court, que la roseraie est le rendez-vous de tous les fantômes de la vallée. Ah, vous êtes au courant. Ah, les journaux du soir. Ah, merci, vous êtes bien aimable. Oh, nous allons être envahis par les journalistes. Il en est déjà venu aujourd'hui. Je n'en ai pas parlé à Jacques, bien entendu. » Oui, Jaloux et Moutier ont raconté l'opération et Mademoiselle Hélier a donné nos noms. Oh, c'est charmant. Si nous voulons avoir la paix, nous n'avons plus qu'à déguerpir. Et c'est ce que nous allons faire de demain, mon cher Lamartinière. Vous voyez, je n'ai pas de secret pour vous. Oui, nous allons partir sans tambour ni trompette. J'irai promener mon revenant en Italie ou en Suisse. Et nous ne réapparaîtrons que lorsqu'on nous fera plaisir de ne plus s'occuper de nous. Alors, venez dîner et donnez-moi des nouvelles de vos pupilles, mon cher ami. Ça va toujours, le coursing ? Chapitre 29. Ce qui peut arriver à une femme de tête. La marinière repartit en auto à 11 heures. À minuit, tout paraissait dormir au château. 2 heures du matin sonnait à l'horloge des communs, quand une ombre, qui profitait de toutes les ombres pour se dissimuler au ras des haies, des murs et des clôtures, pénétrait au plus épais du parc. Cette ombre venait du château et en était sortie par la porte basse de la tour Isabelle. Chose curieuse, les chiens, qui s'était mis tout à coup à aboyer furieusement, se turent lorsque l'ombre passa près des chenilles et s'enfonça dans la ténèbre profonde de l'allée des platanes. Elle prit ensuite par la petite futaie et arriva au mur de clôture du parc. Là, elle remonta le sentier pendant 200 mètres environ et s'arrêta enfin devant une porte vermoulue et à demi dissimulée sous un rideau épais de lierre et de plantes parasites. Et aussitôt, l'ombre ne put retenir une sourde exclamation. Cette porte qu'elle croyait trouver fermée était entr'ouverte. La stupéfaction que lui causait ce détail imprévu suspendit un instant la marche de Fanny sur le chemin du crime. Cependant, elle n'hésita point longtemps. Elle se serait méprisée d'être venue jusque-là pour reculer devant une porte ouverte, quand sa vie, sa fortune, l'honneur de son nom, l'avenir de son enfant, tout dépendait du geste à accomplir, du geste si simple et qui demanderait si peu d'effort. Elle réfléchit que cette porte pouvait être ouverte depuis des semaines, des mois. Peut-être livrait-elle ordinairement passage à quelques domestiques cherchant aventure au village. Et patiemment, pendant quelques minutes, Fanny attendit, tapie sous la futaie, l'oreille au guet. Elle n'entendit ni ne vit rien de suspect. Alors elle jugea que le moment était venu de précipiter sa marche vers la petite maison du bord de l'eau, car l'heure s'avançait, l'heure à laquelle Marthe avait rendez-vous avec ses visions. Elle sortit du parc sans avoir rien remarqué d'anormal, et par le sentier qu'elle connaissait bien, qui longeait la lisière de la forêt de Sénard, elle descendit jusqu'à la boulaie. À travers les arbres, elle apercevait maintenant, de temps en temps, les murs éclatants et nus de la villa, éclairés d'une façon interminante par la lune. Il y avait de gros nuages au ciel, et le vent les chassait au galop du côté de la forêt, qui commençait à chanter d'une façon lugubre. Mais armée uniquement de son cœur d'airain, Fanny ne tremblait ni physiquement, car elle avait pris soin de s'envelopper d'une cape épaisse qui protégeait jusqu'à son visage, ni, si l'on peut dire, moralement. La forme nocturne des choses ne l'émouvait point. Le geste inattendu d'une branche, la silhouette tourmentée et gémissante de quelques buissons au bord de la route, ne l'arrêtait pas. Elle passait avec précaution, mais elle passait, et elle se trouva bientôt derrière cette clôture de planches où elle s'était déjà tapie certains soirs avec son petit chéri pour surveiller les hantises de Marthe. En ce temps-là, il ne s'agissait que de savoir maintenant, il fallait agir. Et elle attendit. C'était le même décor et à peu près le même temps avec ses éclaircies de lune. C'était les mêmes heures qui sonnaient au clocher prochain du village. C'était le même balancement douloureux des trembles sur la gauche au coude du chemin de halage. C'était la même fraîcheur glacée entre les nénuphars de la rive et la racine des saules. C'était le même petit bruit de chêne venant du bachot. Ah, ces bruits de chêne! Quelle importance ils avaient pris dans certaines pauvres cervelles malades. Fanny n'aurait pu s'empêcher même dans un pareil moment d'en sourire, si son attention n'avait pas été soudain accaparée, mais entièrement accaparée, par l'apparition sur le seuil de la petite porte du jardin de la pauvre Marthe. Ah ! Certes, oui, c'était bien elle qui avait l'air d'un fantôme, et plus que jamais. Vraiment, si fragile, si fragile, si frissonnante, si peu de choses vraiment que Fanny elle-même, au cœur d'airain, en eût peut-être eu pitié si elle n'avait tout à coup, la pauvre folle, prononcé le nom de sa folie. André, André. Elle appelait son fantôme chéri, elle appelait sa vision fidèle, et elle devait sans doute le voir. Car puisqu'elle entendait des choses que personne n'entendait, Elle pouvait voir des choses que personne ne voyait. Et la pauvre femme, les mains tendues vers son rêve, s'avançait vers le fleuve en appelant « André, André, es-tu là ?» Alors, derrière elle, avec des mouvements de tigresse à l'affût, Fanny se glissa. Elle n'avait plus qu'un pas à faire pour toucher sa victime, qu'un geste à accomplir pour la jeter au fleuve. Mais ce pas, elle ne le fit point, et son geste retomba. Et Fanny faillit crier d'horreur. Le fantôme était là. Chapitre 30. Fuite. Elle le reconnut à sa blessure à la tempe, et aussi à toute sa figure visible dans le rayon de lune qui passait à travers les branches. C'était André. Oh, c'était bien ses beaux yeux qui semblaient encore avoir grandi et qui regardaient Marthe avec une tristesse infinie. C'était sa pâle et belle figure, si pâle et qu'une souffrance surnaturelle semblait avoir encore allongée, bien qu'elle n'en distinguât point les contours perdus dans le flou de la nuit, toujours humide et toujours brumeuse sur les bords. Il paraissait vêtu d'une sorte de manteau vague, ou plutôt d'une loque incolore, qui lui tombait des épaules et se continuait dans la vapeur du fleuve. Et il était assis sur le bord du vieux canot. Il ne voyait que Marthe. Si Fanny, en apercevant le fantôme d'André, n'avait pas hurlé d'épouvante, c'est que de sa bouche ouverte, le son s'était refusé à sortir. Le cri d'horreur des vivants à l'aspect des morts resta dans sa gorge contractée. Et après avoir reculé en chancelant comme si elle avait subi un choc dont la violence l'eût étourdie, elle tourna sur elle-même et s'enfuit éperdue. Elle traversa d'abord le petit bois de Tremble, remonta en courant dans la boulaie, et courut encore quand il eut atteint la lisière de la forêt. Elle n'osait se retourner pour savoir si elle était suivie par la terrible apparition, et cependant, il lui semblait parfois entendre derrière elle le bruit fantastique des chaînes secouées. Un instant, elle dut s'arrêter, s'appuyer au tronc d'un arbre pour y reposer. Un instant, tout son pauvre corps haletant, tout son être misérable en déroute. Mais elle repartit aussitôt, plus folle que jamais dans sa fuite, et telle qu'une bête traquée par les chiens, car elle avait entendu près d'elle, derrière elle, autour d'elle, les chaînes qui sautaient, qui grinçaient, tintinabulaient au pied des morts. Et quand elle arriva tout en haut du plateau, au coin du mur du parc, elle eut encore un sursaut de terreur, car le chemin était traversé par une forme étrange qui faisait des gestes immenses sous la lune. Cependant, ce fut cette forme-là qui la ramena des limites de la folie. Elle reconnut Prosper le bancal qui agitait sa béquille. Elle l'appela heureuse de se trouver en face d'un corps vivant, de quelqu'un qui n'était pas encore allé chez les morts. Mais il la regarda comme s'il ne la connaissait pas, et s'éloigna rapidement dans un déhanchement monstrueux et grotesque, toujours agitant au-dessus de sa tête l'une de ses béquilles, et faisant entendre ce son sinistre, le seul que put proférer sa bouche informe, son bec de lièvre hideux. Ouh, 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 ouh. Elle toucha le mur du parc, elle était presque chez elle. Elle venait de reconnaître cet être misérable, ce pauvre idiot qu'elle avait fait soigner chez elle. Elle se souvenait qu'il n'avait pas attendu le lendemain de son accident pour se sauver comme s'il avait peur qu'on lui fît du mal. Enfin, ses oreilles ne lui chantaient plus, la stupéfiante chanson des chênes. Elle se reprenait à raisonner, et elle retrouva la petite porte, rentra dans le parc et regagna sa chambre par la porte basse de la tour Isabelle. Alors, quand elle fut dans sa chambre et qu'elle eut fait autour d'elle de la lumière, et qu'elle se rappela tous ses gestes et ce qu'elle avait vu, elle se dit qu'elle avait eu peur du nombre. Dernier chapitre 31. La même pensée conduit les pas de Jacques et ceux de Fanny. Mais en vérité, avait-elle eu peur du nombre? Voilà la question redoutable que Fanny se posait le lendemain matin de cette étrange expédition. Comment, saine d'esprit comme elle l'était, n'ayant encore ressenti cela en aucune façon et à aucun moment, la maladive influence de Marthe ni celle de son mari, comment avait-elle pu, elle, Fanny, qui ne croyait pas à grand-chose et qui n'était effrayée par rien, avoir une vision? En y réfléchissant bien, elle jugeait la chose impossible. Elle se rappelait, du reste, l'état d'esprit avec lequel elle était arrivée sur la berge. Il était des plus criminels, mais des plus sensés. Comment, en une seconde, sa raison avait-elle pu chavirer à ce point? Et si André n'était pas mort? Car enfin, puisqu'elle l'avait formellement reconnu, il était moins absurde de penser qu'elle s'était réellement trouvée en face de lui qu'en face de son fantôme. Si André n'était pas mort, bien des choses se trouvaient alors expliquées, et en particulier la précision des renseignements donnés à Marthe sur le crime du rond-point de la Fresnaye. D'autre part, si André n'était pas mort, bien des choses restaient inexplicables. Mais où était-il? Comment vivait-il? Pourquoi n'était-il pas revenu chasser son frère et la famille de son frère du château? Pourquoi restait-il séparé de ses enfants? Que signifiaient ces apparitions nocturnes? Le mystère s'éclaircissait d'un côté et s'épaississait singulièrement de l'autre. Enfin, comment n'eût-il pas été mort après ce que Jacques lui avait raconté du drame? Jacques avait enfermé à clé le cadavre de son frère dans la malle, et la malle avait été immédiatement enterrée par Jacques au fond de la cave de Héron. Alors elle ne pensa plus qu'à la malle, et avec son esprit pratique, ennemi de toute fantasmagorie, elle résolut d'aller voir elle-même si le cadavre était bien dedans. Jacques devait partir dans la matinée et elle devait le rejoindre le soir à Paris avec le petit Jacques. Il convenait tout de même, en l'occurrence, de savoir ce qu'il laissait derrière eux. Des fantômes ou une victime encore vivante qui préparait dans l'ombre une bien singulière et effrayante revanche? Toute la question était là. Fanny ne quitterait point la roseraie avant de l'avoir résolue. Jacques partit pour Héron à 9 heures au bras de son valet de chambre. Il avait désiré cette promenade à pied dans la belle matinée un peu froide. Il se trouvait bien, déjà solide, et heureux de faire un tour à l'usine, ce qui ne lui était pas arrivé depuis quelques semaines. Il embrassa Fanny en la priant qu'elle ne tardât pas de le rejoindre au terminus où il descendait sous un faux nom pour déjouer la curiosité des journalistes. Il ajouta qu'il passerait 2 heures environ à Héron pour y prendre les dernières dispositions avant le voyage, et à 11 heures il monterait dans l'auto et déjeunerait à Paris. Toute la matinée fut occupée par Fanny à donner des ordres pour les bagages, à régler la situation de ses gens pendant son absence, à recevoir une vieille demoiselle de Juvisy qui devait prendre auprès de Germaine et du petit François la place de Mademoiselle Hélier, et qui, tout en protestant qu'elle était d'esprit saint et qu'elle n'avait jamais cru aux fantômes et qu'elle n'avait jamais fait tourner de table, regardait toutes choses autour d'elle avec un air d'égarement, comme si elle routait de voir sortir du plancher ou des murs le diable en personne. Le valet de pied et la femme de chambre anglaise et l'aide de cuisine devaient s'en aller, eux, dès le soir. Ils prétendaient avoir vu, la nuit précédente, le fantôme se glisser dans le parc et pénétrer dans le château par la porte basse de la tour Isabelle. La cuisinière et Lydia haussaient les épaules en entendant de pareilles sornettes, et elles avaient avec elles tous les esprits forts de la domesticité. Fanny, déjà la seule à midi, en lisant les journaux de Paris qui ne parlaient que du monsieur qui revient de chez les morts. Le petit Darbois d'Excelsior avait tenu parole. Il publiait une excellente interview, remettant toutes choses au point et dépeignant la châtelaine de la roseraie sous les plus agréables couleurs. Elle était belle et intelligente, mais c'était une maîtresse femme qui n'aimait point les mauvaises plaisanteries. Aussi mettait-elle en fuite les fantômes et à la porte Mademoiselle Hélier. Après déjeuner, Fanny entra dans le bureau de son mari et passa une grande partie de l'après-midi à ranger les papiers d'affaires et de famille et à chercher dans les tiroirs la grosse clé du garage qu'elle ne trouva pas. Jacques l'avait emportée comme il avait emporté la clé de la cave de Héron. Mais Fanny était bien décidée à faire sauter la serrure de cette cave et à la remplacer en sortant par un cadenas dont elle s'était déjà munie. Quant à la porte du garage, elle décida qu'elle demanderait à Ferrand, le gardien de Héron, de lui trouver une clé qu'il ouvrirait. Un peu avant 4 heures, elle se fit atteler la petite charrette anglaise et, conduisant elle-même, elle se dirigea sur Héron en faisant le tour du parc pour dépister les curieux ou les reporters qui pouvaient se trouver devant la grille. Elle était enveloppée d'un gros manteau d'auto et coiffée d'une casquette retenue par une gaze. Sous son manteau, elle emportait un cache-poussière avec lequel elle devait travailler dans la cave. Elle se rappelait qu'il y avait là-bas une pioche, une pelle, sans doute celle qui avait servi autrefois. Sitôt qu'elle fut arrivée à Héron, elle jeta les guides à Ferrand. « Eh bien, mon brave Ferrand, vous avez vu, monsieur ?»« Oui, madame, nous avons été tous bien contents de le voir si bien portant. Monsieur est parti à Paris avec monsieur de la Marinière. » « Ah, monsieur de la Marinière est donc venu ce matin ?»« Ma foi, oui, il savait bien que monsieur devait s'absenter, et comme il passait par là avec son auto, se rendant à Paris, il est venu lui dire bonjour et l'a emmené de sorte que le chauffeur que monsieur avait commandé n'a eu qu'à rentrer. »« Dites donc, Ferrand, j'aurais besoin de pénétrer d'anciens garages pour prendre des objets qui me sont utiles. » Et monsieur a emporté la clé. Vous ne pourriez pas m'en trouver une qui ouvrirait la porte? Ça ne doit pas être bien difficile. Mon Dieu, madame, j'ai des tas de clés. On va toujours essayer. Je crois bien que monsieur y est allé aussi ce matin à l'ancien garage. Je l'ai rencontré par là. Il devait en sortir. Il avait justement la clé à la main, si j'avais su. » Fanny pensa tout de suite, « Lui aussi n'a pas voulu quitter le pays sans avoir vu la malle et constater que le cadavre est toujours dans la malle. » Elle sauta de la charrette assez rassurée. Si Jacques, après une visite pareille, était parti sans lui donner de ses nouvelles, c'est évidemment que tout s'était normalement passé. Un quart d'heure plus tard, la porte du garage était ouverte par des soins de Ferrand, qui avait fini par trouver une vieille clé rouillée, ne servant plus à rien, et qui s'adaptait parfaitement à cette serrure. « Je la garde, » dit Fanny. « Oh, c'est comme madame voudra, si madame a besoin de moi. Bon, j'ai des recherches à faire parmi ces bibelots. Allumez-moi la lanterne de la charrette, elle me servira. Là, merci. Et retournez à votre ouvrage, mon bon Ferrand. Je vous appellerai si j'ai besoin de vous. » Elle referma sur elle la porte du garage, sérieusement, cette fois à clé. Elle écouta s'éloigner les pas du gardien, puis courut à la porte de la cave. C'était une porte à claire-voie faite de grosses planches. La serrure avait été choisie par Jacques d'un modèle assez compliqué, mais était par cela même assez délicate. Elle ne résista pas à la pesée de la pince que Fanny avait apportée dans sa poche intérieure de son manteau d'auto, avec le cadenas et les pitons. Et madame de la Bossière descendit, tendant sa lanterne allumée devant elle. Au bas de l'escalier tournant, elle se heurta presque tout de suite à un grand désordre. C'étaient des caisses qui encombraient le chemin. Une grosse barrique avait été déplacée. Décidément, elle avait bien fait de venir. Jacques n'avait pas eu le temps de remettre les choses en place. Sans doute avait-il été dérangé par un appel. Avait-il eu peur d'être surpris par Ferrand? Ou encore la marinière était-il venu le chercher jusque dans la cour, frappant à la porte du hangar? Elle avança dehors, elle était dans ce coin de la cave que n'éclairait pas encore le soupirail, et elle se trouva tout de suite sur le bord d'un trou dont la terre fraîchement enlevée avait été entassée sur l'autre bord. Une partie de cette terre avait été rejetée au fond du trou et recouvrait déjà la malle dont on apercevait encore, cependant, ça et là, le cuir fauve et les boutons de cuivre terni. Jacques n'avait même pas eu le temps de finir de rejeter la terre dans le trou. Oh, c'était bien cela. On était venu le déranger en pleine besogne. Mais elle aurait la force de l'achever, se disait-elle. Elle enleva d'un geste rapide et décidé son manteau, qu'elle mit à l'abri de toute souillure. Puis, à genoux sur son cache-poussière, elle se pencha au-dessus de cette tombe, au fond de laquelle il y avait une malle. Elle avait planté sa lanterne dans le terreau près d'elle. Elle retira d'abord l'appel du trou. Puis elle se pencha à nouveau. Il n'y avait point tant de terre sur cette malle que la main de Fanny ne put se glisser jusqu'à la serrure. C'est donc à la serrure que la main de Fanny alla. Jacques avait-il pris le temps de refermer la malle à clé? Fanny se rendit compte tout de suite qu'il n'avait pas pris ce temps-là. Alors elle n'avait plus, pour savoir, qu'à faire un dernier effort, qu'à se pencher davantage et à tirer à elle le couvercle, le lourd couvercle, recouvert en partie de terre de l'énorme malle. Et le couvercle fut soulevé. Et quand Fanny laissa retomber le couvercle, elle avait vu le cadavre. En revenant au château dans la petite charrette anglaise, Fanny, contente de la bonne besogne terminée, et l'esprit débarrassé d'un doute formidable, réfléchissait à cette étrange étape psychique qui, à de certaines minutes et dans certaines conditions, vous fait voir les fantômes de votre propre imagination. Ainsi, elle en avait été victime elle-même, pensait-elle. pour trouver quelque excuse à une faiblesse dont elle se serait crue incapable et qui la ravalait à ses propres yeux au rang de cette névropathe de Marthe, elle se rappelait que cette minute de défaillance avait failli être la minute d'un crime. Toutefois, cette défaillance-là, elle la regretterait. Ah, si elle ne l'avait pas eue, le fantôme ne serait plus apparu à personne. Que ne l'avait-elle noyé dans le fleuve avec son redoutable médium? Dès qu'elle eut franchi la grille, elle pressentit quelque nouveau malheur. Tous les domestiques, la Fraulein et les enfants et la vieille institutrice, étaient groupés sur le perron, faisant des gestes incompréhensibles et interpellant avec la plus grande agitation. Fanny pressa le trot du poulain et perçut bientôt des exclamations, des cris. « Allons-nous-en ! Allons-nous-en !» On était à la fin du jour. Cette sorte d'assemblée de fous sur les degrés de ce château blême, aux fenêtres closes, qui paraissait déjà une grande triste chose abandonnée, avait un aspect fantastique, qui déplut singulièrement Madame de la Bossière, laquelle s'était jurée à elle-même de ne plus jamais se laisser troubler ni influencer par l'apparence plus ou moins bizarre des formes et des sons. Aussitôt qu'ils l'aperçurent, les enfants coururent à elle, suivis de toute la domesticité. Le petit Jacques pleurait, disant « Le fantôme, maman, le fantôme est encore là !» Quant à Germaine et à François, ils affirmaient avoir vu papa assis dans le grand fauteuil de la penderie. Et ils s'étaient sauvés tant ils avaient eu peur. Ils racontaient que le fantôme leur avait parlé, leur avait dit tristement « Pourquoi vous sauvez-vous? Vous ne me reconnaissez donc pas ?» Ils l'avaient bien reconnu, mais leur papa mort leur faisait trop peur. Exaspérée par cette nouvelle imbécilité, ce fut le terme dont elle se servit pour qualifier l'événement, Madame de la Bossière sauta de la voiture et questionna posément Germaine, qui était déjà assez raisonnable pour ne plus croire à de pareilles sornettes. Germaine, qui tenait son petit frère sanglotant dans les bras et qui pleurait presque aussi fort que lui, ne put que répéter « Mais nous avons vu papa ! Nous avons vu papa dans la penderie, il nous a parlé !» Mais la colère de Fanny trouva particulièrement à se manifester quand, s'étant retournée vers les domestiques, elle apprit d'eux qu'ils n'avaient pas osé aller eux-mêmes dans la penderie pour rassurer les enfants et leur prouver qu'il n'y avait pas de fantôme du tout. La nouvelle institutrice elle-même ne savait que répondre « mon Dieu !» en joignant les mains, et cependant, elle était bien connue pour ses sentiments laïques. Et tous les autres, montrant la fenêtre au volet clos de la penderie, disaient « Oh, madame, il n'y a plus de doute, il est là, il est là !» Même ceux qui ne croyaient pas aux fantômes, c'est-à-dire les esprits forts, déclaraient qu'ils ne voulaient point se mêler de cette affaire-là. Alors Madame de la Bossière, prise d'une nouvelle indignation, écarta tous ces pauvres gens et dit « Eh bien, je vais y aller, moi, dans la penderie. Tas de lâches, tas d'imbéciles. Mais prenez garde, madame, prenez garde !» « Maman, maman !» criait le petit Jacques. « Il va pas, maman !» Elle était tellement énervée qu'elle lui flanqua une gifle. Fanny fut vite au premier et pénétra dans son appartement, dont les portes étaient restées ouvertes, sans doute après la fuite des enfants. La peur avait si peu de prise sur elle, surtout depuis qu'elle avait vu le cadavre dans la malle, qu'elle ne recula point devant l'obscurité qui régnait dans sa chambre. Et elle s'enfuit tout de suite à la cheminée pour faire de la lumière. Mais comme elle s'avançait ainsi dans l'ombre, Voilà que cette ombre fut éclairée d'un rayon, d'un trait lumineux, qui brusquement s'en vint établir une oblique, partant du trou d'une serrure et rejoignant le parquet de la chambre. Cette fois, Fanny recula, suffoquée par la surprise. La serrure était celle de la porte de la penderie. Il y avait donc quelqu'un dans la penderie, quelqu'un qui, dans la penderie, avait fait de la lumière. Eh bien, pourquoi n'y aurait-il pas eu quelqu'un dans la penderie? Les portes n'en étaient pas plus fermées à clé. Et pourquoi ce quelqu'un n'aurait-il pas fait de la lumière? Courageusement, il reprit une fois de plus son sang-froid. Elle avança et d'une main ferme, ouvrit la porte et regarda. Elle ne vit personne. Non, il n'y avait personne dans la petite pièce. L'autre porte était fermée, et elle n'entendait aucun bruit de pas. Cependant, il se pouvait fort bien que la personne qui avait allumé la bougie qui se trouvait sur la table eut pris le temps de s'éloigner, l'autre porte n'étant pas fermée à clé. Mais tout de même, qu'est-ce que signifiait cette bougie allumée? Cette bougie dans un petit bougeoir d'argent finissait par être effrayante, même pour Fanny qui ne s'effrayait de rien. Effrayante avec cette façon qu'elle avait de s'éteindre, de s'allumer, histoire d'épouvanter les gens au cerveau le plus solide, les femmes de tête même. N'était-ce point le mystère du petit casque d'argent qui recommençait, et pour elle cette fois? Elle en eut tout de suite l'affreux pressentiment, un certain souffle qui lui passa dans les cheveux, qui lui glissa sur la nuque, un certain air frais et fade qui l'enveloppa comme un vent de tombeau. Le mort ne devait pas être loin. Et voilà qu'elle vit, cependant qu'elle regardait la bougie allumée, voilà qu'elle vit, s'allonger à côté d'elle, un bras de spectre, une main longue, longue, aux doigts pâles et desséchés, qui s'approcha de la bougie, saisit le petit casque d'argent et en coiffa la bougie qui s'éteignit. Fanny poussa un cri horrible. Elle voulut s'enfuir, mais les jambes lui manquèrent, et s'étant élancée, elle glissa dans les bras du spectre d'André, qu'elle avait eu le temps de reconnaître avant de s'évanouir. Car les spectres qui ne sont pas visibles dans la lumière sont quelquefois visibles dans l'ombre. Les domestiques avaient entendu le cri désespéré de Fanny. Ils n'avaient pas été les seuls à l'entendre. Une petite troupe de journalistes, conduite par le jeune Darbois, était parvenue à pénétrer dans le parc et débouchait devant le château quand la clameur atroce les avait instant arrêtés. Et puis ils se précipitèrent. Les domestiques leur expliquaient « C'est madame qui a voulu voir le fantôme dans la penderie. » Et rendus braves par la présence des reporters, ils guidèrent les recherches. Mais toutes les recherches furent vaines. On ne retrouva pas madame de la Boissière. On se doute de l'immense stupeur qui accueillit au lendemain de ces événements extraordinaires les déclarations des témoins contrôlées par les journalistes de la grande presse. Le fantôme de M. André de la Boissière avait emporté sa belle-sœur. Cette nouvelle n'était point nécessaire pour bouleverser un pays qui possédait déjà un monsieur vivant revenu de chez les morts. Toutes les cervelles un peu faibles de la région commencèrent à se déranger sérieusement et il y eut dans la vallée comme une épidémie de visionnaires. On voyait des fantômes partout, et des gens qui, jusqu'alors, avaient montré beaucoup de bon sens, prétendirent entendre à chaque instant dans leur buffet ou dans leur table de nuit des bruits inexplicables. On ne retrouva Madame de la Boissière que le lendemain qui suivit le jour de sa disparition, étendue sans connaissance au beau milieu d'un sentier de la forêt de Sénart, non loin de la petite porte qui faisait communiquer le parc avec cette forêt. On parvint à faire reprendre ses sens à la malheureuse femme, mais ce qu'elle raconta quand elle parla n'était pas encore fait pour calmer les esprits. Elle, qui était appréciée de tous ses amis et de toute la société qui fréquentait la roseraie pour le parfait équilibre de ses facultés, semblait déménager complètement. Elle restait persuadée qu'elle avait été enlevée à travers les murailles du château par le fantôme de son beau-frère. Enfin, ce jour-là, comme pour mettre le comble à la fantasmagorie des événements qui se déroulaient à la roseraie et à Héron, on vit apparaître Monsieur de la Marinière, qui déclara n'avoir point emmené dans son auto, ainsi qu'il avait été dit, Monsieur Jacques de la Boissière. Monsieur de la Marinière affirmait être revenu seul à Paris, et le prouvait. Mais où était donc passé le monsieur qui était revenu de chez les morts? L'énigme ne faisait qu'augmenter. Le parquet demanda à la sûreté de mettre en chasse ses plus fins libiers, mais ce furent les journalistes qui, encore là, arrivèrent bon premier. Le jeune Darbois avait travaillé et ferme. En somme, la dernière fois qu'on avait vu M. Jacques de la Bossière, ça avait été devant la porte de l'ancien garage. Le reporter parvint à pénétrer dans le garage et là, constata les fractions toutes fraîches de la serrure de la cave. Il n'hésita pas à prendre l'initiative hardie de faire sauter le cadenas et il descendit dans la cave. La pelle, la pioche, la terre fraîchement remuée, le désordre des caisses et des barriques, tout lui disait « Le secret est là !» Et il creusa. Et il trouva la malle. Et dans la malle, le cadavre de M. Jacques de la Bossière. M. Jacques de la Bossière, l'homme qui revenait de chez les morts et qui était si vite retourné, ne s'était pas enterré tout seul. On sut que Fanny, quelques heures après la disparition de Jacques, s'était enfermée dans le garage. On la soupçonna immédiatement d'avoir tué son mari. Chose extraordinaire, le cadavre de Jacques de la Bossière ne portait aucune trace de violence, aucune blessure. La victime semblait être morte étouffée, et cependant il y avait de nombreuses traces de sang dans la malle. Alors il fallut bien que Fanny, qui comprenait tout maintenant, expliquât au juge que son mari était mort suffoqué de ne point trouver dans cette malle un cadavre qu'il y avait mis. Le coup avait été trop fort pour un homme dont le cœur avait été recousu récemment et foudroyé par l'anévrisme. Il avait glissé dans la fosse qu'il venait de creuser, puis du même mouvement, dans la malle, dont le couvercle sous l'effet de la secousse s'était retombé, se recouvrant en partie de la terre et de la pelle entraînée par la chute du corps. Ainsi Fanny avait-elle, en apercevant le cadavre de Jacques de la Bossière, sous le couvercle hâtivement soulevé, cru reconnaître le cadavre d'André. Le certain, pour le moment, était que Monsieur André de la Bossière, frappé à la tempe et enfermé par son frère dans la malle derrière l'automobile, Fanny, pour écarter d'elle tout soupçon de complicité, avait tout raconté en détail, s'était échappée de cette malle. Comment la chose n'avait pu se passer que d'une façon? Étourdi par le coup, il était revenu vite à lui, dans la malle emportée par l'auto, n'ayant point trop perdu de sang à cause sans doute de la sorte de bandeau que Jacques lui avait fait avec son mouchoir, mouchoir retenu encore par la casquette précautionneusement enfoncée sur le front. André s'était soulevé et avait dans l'instant même soulevé le couvercle de la malle qui pesait sur lui. Pour cela, il était nécessaire que la malle n'eût pas été fermée à clé, comme Jacques l'avait pensé. Elle avait été mal fermée. André sort donc à moitié de la malle, soulève la bâche, aperçoit son frère qui n'est occupé que de conduire la voiture, et aussitôt ne pense qu'à lui échapper, car il ne fait plus de doute que si l'autre se retourne, il n'hésitera pas à achever la besogne commencée. Et Jacques roule sur la route de la forêt de Sénart. Et c'est ici que recommence le grand mystère. Qu'a-t-il fait pendant 5 ans dans la forêt de Sénart? Pourquoi n'en est-il sorti que si tard et dans des conditions si étranges? L'article suivant parut dans l'Excelsior sous le titre général « Une étrange séquestration » et avec le sous-titre « Le fou et le bancal ». Cet article devait quelques jours plus tard livrer au public haletant la solution bien simple d'un problème qui, dès l'abord, avait paru impossible à résoudre. Le jeune Darbois commençait par rappeler les séquestrations les plus célèbres, celles qui, par leur audace, stupéfiaient la population des villes. N'avait-on pas maintes fois, au cœur des cités, au centre du mouvement quotidien, le plus actif, découvert par hasard la prison, jusqu'à ce jour insoupçonné d'un pauvre débris d'humanité maintenu par la tyrannie ou l'avarice d'un geôlier d'occasion, dans la décrépitude morale et physique la plus sordide? Il ne fallait donc point s'étonner, outre mesure, de retrouver M. André de la Bossière au fond de la grotte du rond-point de la Fresnaye, où ce misérable idiot de Prosper, le sourd-muet, l'avait tenu enchaîné pendant 5 ans. C'était là que le jeune Darbois était allé le chercher, après avoir été frappé par la coïncidence des apparitions de Prosper derrière les apparitions d'André. Le bancal courait alors après son prisonnier qui traînait à son pied la chaînette volée à un collier de chien avec laquelle Prosper l'attachait à son rocher. Sans doute le pauvre fou, car M. André de la Bossière était fou. Et comment, après un traitement pareil, ne l'est-il pas été? Avait trouvé le moyen, au bout de 5 ans, de se libérer de temps à autre. Mais avec quelle épouvante il voyait réapparaître son maître, et comme précipitamment, il retournait à la niche. Prosper tenait à sa victime comme au seul être humain qui lui était donné d'approcher. Est-ce que chacun ne s'enfuyait pas, sitôt qu'il apparaissait dans le pays, comme s'il eût apporté la peste avec lui? Et n'apportait-il pas plus que la peste, puisqu'il apportait le mauvais sort? Avec quelle joie le misérable, en rentrant un jour dans son trou de bête, avait trouvé près de là cet homme qui se traînait sans force sur la route. Il l'avait emporté avec lui comme une proie, ce compagnon inespéré de sa solitude, et il ne l'avait plus lâché. Ainsi le jeune Darbois se représentait-il le drame. Ainsi l'avait-il expliqué au magistrat qu'il avait conduit lui-même dans ce trou de l'enfer où un idiot avait enchaîné un fou. Un fou qui se croyait mort, un fou, qui se croyait damné. D'où les déambulations nocturnes du pauvre captif, momentanément évadé vers les lieux et les personnes qui lui furent chères pendant la vie, vers Marthe et la petite maison du bord de l'eau, vers le château où il essayait, sans se faire voir, car il sait que l'aspect des morts effraie les enfants, d'apercevoir ses enfants. D'où son errance dans les corridors du château, dont il connaissait les détours, d'où son apparition dans cette penderie, dont monsieur le juge d'instruction vient de découvrir la porte secrète, qui conduisait par un couloir que l'on croyait condamné jusqu'à la tour Isabelle, et de là jusqu'aux vieilles douves. Et maintenant que le pays de Sénart se tranquillise, que les esprits, ceux des vivants et des morts, s'apaisent, que les enfants et les amis de M. André de la Bossière espèrent, les hommes de science, après avoir examiné son pauvre front démoli, cette plaie atroce, encore saignante de temps à autre sous la griffe du bancal, ont déclaré qu'après une opération du trépan qui s'impose, la raison pourra revenir habiter ce crâne martyrisé. Et surtout, que Mademoiselle Hélier soit heureuse. Si l'esprit ne lui répondait pas dans la table, c'est que l'esprit était encore vivant.